sei che animata.
Voilà, eh ben on peut commencer alors le débat, vous l'avez un peu ouvert, hein, je vous en remercie. Alors moi j'ai envie de vous poser la question, on peut commencer par là, est-ce que cette idée que la tolérance en démocratie peut très vite se pervertir en laxisme ? Est-ce que vous trouvez que c'est une idée qui est valable ou bien est-ce que c'est une vision un peu guerrière?
Et pourtant, j'ai beaucoup vécu en pays musulman, avant l'indépendance du Maroc, puis avant l'indépendance de l'Algérie, les trois communautés religieuses vivaient en paix. Nous étions tous amis. Alors je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
Alors, Voltaire, qui parle du fanatisme, il analyse ce phénomène d'ailleurs. Le fanatisme, c'est lorsque la croyance religieuse se transforme en violence, hein, le fanatisme, lorsque le sentiment religieux est à ce point exacerbé qu'il devient exclusif, mais au point qu'il devient.
Vous voyez, c'est le fanatique qui déclenche tout. Mais là, ça ne veut pas dire que l'ensemble de la population va marcher derrière. Moi, si vous voulez, j'ai enseigné au Sahara. Je n'avais que des musulmans. J'étais la première femme blanche qui voyait. Ils m'ont écrit pendant 10 ans après l'indépendance. Les liens qu'il y avait entre nous étaient très forts. Et il y avait un double fait qui m'avait interpellée. La première fois, je tombe enceinte. Et nous avions des boys, ça s'est connu dans l'armée. On a un boy. Et je lui dis, Bruno, on va avoir un petit frère. Je lui dis, me répond, Inch'Allah, madame. Je lui réponds, mais si je lui dis, le roi. J'ai fait une fausse couche peu de temps après. L'année suivante, je lui redis, Bruno va avoir un petit frère. Inch'Allah, madame, Inch'Allah, je lui dis, j'ai eu mon bébé. Et quand j'ai quitté ma place, au moment de l'indépendance, mon meilleur élève me dit, madame, Boulala te bénisse et te donne encore 3 garçons. Et j'ai eu encore 3 garçons. Et ça m'a marqué, si vous voulez. Je me suis dit que Dieu était d'une certaine. Le Dieu universel est le même. Et après, bon, les hommes l'ont adapté
alors,
à leur style de vie, à leur croyance,
à leur question, etc. Ah, alors, moi je voulais juste, merci hein, pour ce sujet, vous dire que vous rappelez l'intervention que j'avais faite sur l'enfer, c'est les autres.
Oui.
On avait parlé de la peur de l'autre hein, et de la différence. Alors, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais vous avez compris qu'en toile de fond, il y a aussi cette question-là, du rejet de la différence. Quoi, hein. Être tolérant, être ouvert d'esprit, c'est être capable d'admettre la différence. Différence de pensée, différence de mœurs. Hein. Même si nous-mêmes ne n'admettons pas ces mœurs, c'est ça l'ouverture d'esprit, hein. C'est être capable d'accepter, de prendre en compte la différence, en tout cas de ne pas la rejeter.
Oui, non, c'est pas forcément la religion.
Voilà, absolument. Ça déborde hein, très largement.
Oui, d'autre part, vous nous avez parlé de la tolérance de Voltaire, et si on se réfère à Voltaire, il y a dans ses contes philosophiques, à un moment donné, il dit. Nos prêtres ne sont pas ce qu'un peuple pense, notre crédulité fait toute leur science. Et parlant des musulmans, le derviche est mété dans le champ de Montaigne, de l'œil au ciel, les bras haut et l'esprit en prieur, du Seigneur en dansant évoque les lumières, et tournant dans un cercle au nom de Mahomet, croit de la vertu même atteindre le sommet.
Alors c'est bien que vous parliez.
C'est un peu en contradiction avec ce qui.
Bon, j'ai fait exprès, mais il faut quand même que je vous le dise. Il y a évidemment une grosse contradiction. Enfin, la manière dont Voltaire parle de l'islam, on va dire qu'elle n'est pas très tolérante, vous êtes d'accord, hein. Elle est même un peu beaucoup péjorative. Religion du fanatisme, enfin bon. Voilà. Et en même temps, on a vu que chez Locke aussi, il y avait beaucoup de contradictions. Hein. Alors je ne sais pas comment interpréter le fait que les grands penseurs, en tout cas ces deux-là, hein, de la tolérance, aient eu des discours aussi contradictoires. Parce que quand je vous dis que Voltaire parle de l'islam de manière péjorative, c'est un euphémisme. Hein.
Bon. Et pourtant, Voltaire est plus ouvert que Locke.
Oui, je pense.
Après, donc, ils n'échappent pas non plus à leur époque, à leur éducation, à l'orientation voilà, des pensées de l'époque, quoi. Même en se voulant peut-être progressiste quelque part.
Oui.
Mais à un moment, ça revient au galop, quoi.
Oui,
la nature, le front de la nature.
Le jeu culturel, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, on n'échappe pas à son époque comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quand on réfléchit, la tolérance. Ça peut être dangereux de l'appliquer à tous les domaines. Parce que, imaginons, on prend un tueur, et si on lui applique la tolérance, en fait, c'est compliqué. Ben, pourquoi on le punirait? Pourquoi on l'enverrait en prison? Peut-être que les parents de la victime, ils devraient être tolérants et lui pardonner. Ça peut être dangereux.
Oui.
Moi, je pense qu'il n'y a qu'au niveau de morale, de la moralité et du respect, mais à l'humain, pas.
Oui.
C'est compliqué, hein.
Parce que la tolérance, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les lois. Hein. Dans certains cas extrêmement précis et peu nombreux, la tolérance peut être vue comme un assouplissement très ponctuel de l'application de la loi. Mais la tolérance, en fait, c'est ne dit pas qu'il ne faut pas respecter la loi. La loi dit qu'un criminel doit être
mis en prison. Si on va jusqu'au bout, par rapport à l'être humain, si on respecte, finalement, c'est un tueur et il est différent de moi, c'est évidemment que je tourne un peu le truc, mais si on va jusqu'au bout du principe, ou peut-être que je m'égare, hein.
Non, enfin, la tolérance ne dit pas qu'il ne faut pas respecter les lois.
Dans la mesure où l'homme est bon, on peut le tolérer, même à musulman, dans la mesure où il a une attitude humaine,
on va dire,
avec
les autres personnes. Tolérer quoi?
Non, une attitude
humaine, une attitude,
c'est-à-dire amicale.
Oui, c'est de l'attitude.
Alors oui,
vous voyez l'exemple de Notre-Dame des Landes. Je crois que c'est l'exemple.
Alors là, on est en plein dans l'actualité. Là. Bon, moi, je.
C'est important, c'est le niveau
que je
on va. Il y a quand même 24 CRS, gendarmes de la gendarmerie de Douvres, qui sont blessés. Voilà.
Donc on pourrait dire que la tolérance a ses limites.
Vous l'avez dit, tolérance n'est pas autorisation.
Mais les peines, par exemple, emprisonnement à vie, voilà. Elles sont commuées la plupart du temps en peine d'emprisonnement à 15 ou 20 ans, voire moins, parce qu'il n'y a pas de place. Du coup, les tueurs d'enfants ou les violeurs d'enfants, ils ressortent et ils recommencent. Donc c'est là que je dis que c'est une tolérance en quelque sorte aussi.
Mais je pense qu'il y a une confusion. La tolérance, c'est supporter quelque chose, tolérer. Hein. C'est ne pas, c'est justement ne pas développer l'action publique justement. Quand on tolère, il n'y a pas d'action juridique puisqu'on tolère. Quand on libère un prisonnier sans qu'il, enfin, après, par exemple, après un temps, alors qu'il a été condamné à la perpétuité, je ne sais pas si on peut appeler ça de la tolérance. Je ne pense pas que ce soit de la tolérance. Ça porte un autre nom. Alors, on ne supporte rien. Mais tolérer, c'est supporter.
Nous, on supporte le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de place en prison.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire? La tolérance à préférer.
Mais alors, s'il n'y a pas de condition à ce moment-là,
non, ce n'est pas le seul critère, mais la tolérance, c'est un principe qui peut être appliqué à certains domaines, et suivant le domaine dans lequel il est appliqué, finalement, il peut être dangereux et pas applicable.
Ce qui est sûr, c'est que vous voyez la contradiction dans laquelle peut se mouvoir une démocratie. Si pour respecter la démocratie, un État démocratique interdisait le parti royaliste, interdisait les anarchistes, interdisait, je sais pas moi, l'extrême gauche militante, la démocratie se protégerait. Mais on dirait. C'est plus une démocratie puisqu'elle est intolérante. Alors c'est un peu la espèce de quadrature du cercle.
Mais là c'est plus. Excuse-moi, là ce n'est plus la tolérance, c'est la justice. Oui, il y a les lois, hein.
C'est pas pareil.
Oui,
les lois, elles sont appliquées de pas de manière. On tolère des choses aussi par rapport à la loi. Vous le savez très bien comme moi. Celui-là, il va être condamné, l'autre, il sera pas condamné. Il y a une tolérance finalement.
Mais c'est
alors,
ça.
Alors, il y a un livre que vous avez vu tout à l'heure, qui me rappelle, parce que j'assistais une fois à l'hôpital, et c'était un jeune accident. J'avais été invité simplement pour voir ce que c'était. Et je me rappelle que le monsieur qui a fait cet accident, il est voyé mal de l'abdomen. Et après que son avocat ait fait sa plaidoirie, bon, lui, il m'a dit, monsieur, vous avez quelque chose à dire. Son avocat lui a soufflé, je lui dirais tout simplement, je demande votre clémence. Donc ça veut dire, je mérite une peine, mais...
Mais la clémence, c'est pas la première fois, on l'a vu. Justement, c'est ça. La clémence, c'est un sentiment qui fait appel à une...
De la sensibilité.
À une sensibilité, voilà, absolument. Alors que la tolérance, elle peut faire appel à, comme dit Locke, à une forme de condescendance. On peut être tolérant pour avoir la paix. Souvent, d'ailleurs, on est tolérant pour avoir la paix. C'est-à-dire, c'est pour nous qu'on est tolérant.
C'est les parents vis-à-vis des enfants turbulents.
Moi, il m'arrive, je ne vous le cache pas, je vais vous le dire, mais il m'arrive parfois, face à des classes un peu difficiles, d'être un peu tolérant sur les bavardages. Je tolère, et il bavarde, je tolère, parce que j'ai pas envie de m'énerver un moment du soir. Et la tolérance, ici, c'est pas de la clémence. Hein. C'est que je veux avoir la paix. Vous voyez, et je pense qu'on peut appliquer ça à la société, évidemment, dans un cadre plus général. Quoi. Je pense que la tolérance est souvent utilisée par une démocratie pour ses fins à elle, pour avoir la paix sociale, pour que les gens se... Voilà. Et là, on retombe sur l'analyse de Locke. Hein.
C'est comme les prisons qui n'ont pas assez de place. Ou profiter aussi d'une opportunité de manipuler ou de faire passer des lois ou de... C'est vrai.
Ah, les lois, on ne les fait pas comme ça, attention. Oui. Hein.
Non, mais... moi, je pensais...
Alors,
la clémence n'est pas la tolérance, mais la clémence peut mener.
Oui.
Ah, une attitude tolérante, c'est vrai. Oui, absolument. Moi, je voulais revenir sur cette question parce qu'elle est complexe. Hein. De la laïcité. Vous savez, il n'y a pas énormément de pays dans le monde hein, qui ont le principe de laïcité. Hein. Moi, je pensais naïvement que la laïcité, c'était quelque chose d'assez répandu dans les autres pays. En fait, non. Hein. Vous savez, aux États-Unis, le président jure sur la Bible. Hein.
Oui.
Par exemple, hein, la laïcité, c'est pas si répandu que ça. C'est-à-dire la séparation entre l'Église et l'État. Vous connaissez les polémiques qu'il y a pu avoir sur cette notion. Est-ce que la laïcité, c'est un principe philosophique qui repose sur une tolérance? Est-ce que la laïcité promeut la tolérance? Ou est-ce que finalement la laïcité, c'est pas ce qui va empêcher les jeunes femmes de sortir voilées, les personnes de confession juive de sortir avec une kippa, ou d'aller à l'école avec une kippa, les enfants catholiques d'avoir une grosse croix sur le... Et qui est perçu comme une forme d'intolérance. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la laïcité, ça permet finalement la tolérance, ou au contraire, est-ce que c'est pas ce qui va empêcher l'affichage, parfois ostentatoire, mais, de ses convictions religieuses?
C'est la tolérance.
Alors,
oui, justement, cette remarque-là, reliée au fait que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas eu un glissement, en quelque sorte, hein, si on schématise, entre. D'un point de vue historique, entre un système de société collective, on va dire, si on résume au 18e, 19e, plutôt basé sur le collectif, et une société qui aujourd'hui est plutôt basée sur l'individu, plus individualiste, il y a moins de groupes, mais il y a plus des individus. Et si la question de la tolérance n'était pas mise en... ce serait modifié par rapport aux modifications même de l'organisation sociale, en fait, que les grandes religions qui structuraient, on va dire, les sociétés, qui avaient plus tendance à structurer les sociétés avant, sur les sociétés, on va dire, plus traditionnelles, avec le changement de société et l'individualité montante due aussi au progrès, ou à la manière de vivre, etc., avait modifié la question de la tolérance, justement. Enfin, je
ne
suis pas forcément très clair.
Oui, non, mais en tous les cas, Alors, pour prolonger ce qui a été dit, je prends un exemple très concret, hein, c'est pour vous faire réagir éventuellement. Vous savez qu'il y a des lycées, on peut plus mettre de sapin ou de crèche. En crèche, c'est plus profond. Parce que c'est jugé prosélyte, enfin. Hein. Est-ce que là, on n'en atteint pas des limites, quoi, hein, ouais. Je ne sais pas. Hein. Et là, une laïcité aurait un effet pervers, quoi. Absolument. Finalement.
Oui, mais dans ce cas-là, il faut supprimer tous les jours fériés. Il faut supprimer les jours fériés et on n'en sort pas.
Quoi. Et vous savez, ça, les vacances, on les appelle plus vacances de Pâques, mais on les appelle vacances de printemps. On appelle...
Il y a des glissements de langage.
Oui.
Je connais bien pratiquement tous les pays du Moyen-Orient, plus sur ma brève. Et comme je vous disais, je suis allée sous Kadhafi, je suis allée en Iran, sous l'Ayatollah Khomeini. Je suis allée.
Non, je me trompe.
Je suis allée sous Kadhafi, je suis allée en Libye, sous l'Ayatollah en Iran, je suis allée en Iran, et on a renversé ces chefs d'État, et pourtant j'avoue que, honnêtement, j'ai pratiquement fait le tour du monde, le peuple le plus généreux que j'ai trouvé, c'est le Libyen. Absolument pas attaché à l'argent, d'une générosité incroyable, c'est vraiment le Liban. Et alors, j'ai quand même fait un rapprochement. 68, s'il a donné certaines libertés, a fait beaucoup de mal. Parce que j'ai remarqué que l'intégrisme a commencé à monter, plus la femme européenne se dévoile physiquement, plus l'intégrisme monte en face. Parce que c'est inacceptable.
Oui, comme une espèce de vaste
communication. On est responsable en partie de ce qu'il y a.
Ah ben merci pour ce témoignage. Hein. Moi, je voulais rebondir encore une fois sur les liens, puisque c'est comme ça que je l'avais présenté au début, hein, entre le thème de la tolérance et les idéaux démocratiques. Je préfère l'analyse maintenant un peu datée, elle date de 1993, mais elle est encore d'actualité, de Pierre Bourdieu dans La misère du monde. Pierre Bourdieu, c'est un sociologue lycéen, hein, je l'ai décidé, qui fait des enquêtes avec toute une équipe de sociologues dans ce qu'on appelle les lieux de relégation sociale. La misère du monde, alors il fait une enquête dans le nord de la France, là, aussi dans les quartiers difficiles à Marseille. Et un des constats qu'il fait, c'est que il dit que les pouvoirs publics n'arrivent pas à contrôler en fait le trafic de drogue. En fait, celui-ci est plus ou moins toléré. Parce qu'on sait que s'il n'y avait pas le trafic de drogue, qui était plus ou moins toléré, de manière évidemment très hypocrite en même temps, les cités exploseraient, dit-il. Hein. Y a une économie parallèle, et cette économie parallèle, elle fait que les cités n'explosent pas, et que par conséquent, les familles vivent, parfois même bien. Hein. Ils ont tous leurs petits. Il y a le guetteur, ils ont tous dans le trafic. En fait, ce qu'il dit, c'est que le trafic, il est toléré. Mais il ne faut pas le dire. Parce que sans ça, les cités, elles explosent. Est-ce qu'on n'est pas là face à un constat extrêmement lucide, et est-ce qu'on n'est pas là aussi aux limites même du système démocratique? Alors oui.
C'est beaucoup de choses là-dedans, mais c'est très compliqué parce que tu leur as dit au début, tolérer, c'est juste permettre que une certaine marge. Ben d'accord. C'est-à-dire
pour le sens juridique,
des nuances,
ouais,
qui est une possibilité de diversification. Or, il y a beaucoup de choses dans ce qui a été évoqué où en fait on s'aperçoit qu'on est dans des régimes extrêmement intolérants. L'État lui-même ne tolère pas, par exemple, l'expression populaire. Il y a eu le vote en 2005, il n'allait pas dans le sens de l'État. Il a été balayé. Puisque c'était intolérable, on avait voté contre le traité constitutionnel, donc on avait voté contre l'Union Européenne, c'était intolérable, donc ils ont fait passer, voilà. Tout ce que l'on voit depuis un an nous montre un État français qui est toujours plus concentré, fermé, très autoritaire, violent parfois, et qui fait passer des lois sous ordonnance. Hein, voilà, j'entendais encore hier, par exemple, monsieur, comment il s'appelle, Hollande, se vanter que la loi El Khomri avait été une loi qui avait été discutée. Il a apparemment oublié qu'il avait fait, il a fait passer par le 49-3, c'est-à-dire une procédure qui est non démocratique, justement. Il n'y a pas eu de discussion à l'Assemblée. Donc, on a une tolérance, mais qui est sur un fond d'intolérance, de toute façon. On a une tolérance qui a des limites et une tolérance qui ne tolère pas non plus ce qu'elle va appeler une intolérance. Les anarchistes, tout à l'heure, tu parlais par rapport à l'État, qu'ils voudraient renverser la démocratie. Et après, tu as dit, mais les anarchistes, c'est l'État. Mais l'État et la démocratie, c'est pas la même chose. Or, les anarchistes, effectivement, ne veulent pas l'anarchie, au sens où on l'entend. Ils veulent un dépassement de l'État, mais c'est-à-dire avec un autre ordre. Parce que l'ordre dans lequel ils vivent, ils sont intolérants à l'égard de cet ordre actuel, comme cet ordre actuel est intolérant à l'égard d'eux. Et donc, effectivement, ils veulent le dépasser parce qu'ils pensent que si on vit autrement, on vivra mieux. Et que dans l'histoire, il y a quand même eu ce moteur-là.
Oui,
parce qu'il y a trop d'État.
Alors, merci pour cette intervention. C'est vrai que tu as raison de préciser que la démocratie, c'est pas l'État. Et les anarchistes, leur combat, c'est pas pour faire l'anarchie au sens du bordel, encore une fois, par l'expression. Mais tu as tout à fait raison. Vous voulez intervenir
dessus? Oui, c'est la contrepartie, c'est le mouvement libertaire anarchiste. Ce que je voulais dire, c'est que tolérance et savoir, il y a une relation directe. C'est-à-dire que ce que je ne connais pas m'adresse. Mais si je le rencontre, ça m'ouvre ma perspective, ça me donne un champ. Donc, à la limite, quelque chose, une personne me est désagréable, mais la rencontre m'enrichit. Et dans ce sens, disons que c'est 1492, c'est effectivement le principe de base pour aller plus loin.
Oui. Alors c'est intéressant parce que là vous ouvrez notre perspective. C'est vrai que la réponse que je vous ai proposée, hein, par rapport à la question initiale, pourquoi devons-nous être tolérants, en m'appuyant en particulier sur Locke, mais pas uniquement, la réponse que je vous ai proposée, c'est un État est tolérant pour avoir la paix. Hein, en gros, c'est ça. C'est-à-dire il est tolérant pour lui. Et moi, j'aurais aimé qu'on puisse, mais vous avez commencé à le faire, hein, évoquer une tolérance qui s'appuie sur le respect, l'accueil de la diversité, de la pluralité, de la différence.
C'est un côté noble aussi.
Oui.
C'est-à-dire que pour ça, il faut quand même cohabiter et avoir des contacts.
Absolument. Il faut se connaître. Oui. Oui, je vous en prie.
Mais tout ça, c'est finalement ne pas critiquer, ne pas blâmer, mais comprendre.
C'est ça. C'est-à-dire être dans une attitude qui n'est pas une attitude normative, en fait, hein, qui est une attitude de, on va essayer de comprendre l'autre. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le premier pas de l'acte de tolérance authentique. C'est essayer non pas de juger, mais d'essayer de comprendre.
Un côté positif aussi.
Voilà. Mais et là, on a une tolérance. Et là, la question pourquoi devons-nous être tolérants, c'est quoi la réponse là, si ce n'est plus pour avoir la paix. Quel peut être le principe de la tolérance, sinon le respect
La dangerosité d'un parti politique, par exemple, ne peut se concevoir que si on le connaît, ce parti. Oui, ce que je veux dire. Donc, à la limite, que l'on tolère dans l'expression populaire. Si c'était clandestin, ce serait infiniment plus grave.
Oui, absolument.
C'est comme la prohibition aux États-Unis, ça donnait un résultat catastrophique.
Oui, et d'ailleurs, ça n'a pas tenu longtemps.
Et la tolérance, on peut dire aussi que c'est vouloir aller vers la paix.
Oui.
Ça, c'est un peu de chance qui sont difficiles.
Oui. Alors, moi, je voudrais qu'on pose la question, cette fois, on la prend d'un autre côté. On fait souvent ça en philosophie. Hein. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui intolérable? C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être toléré.
Les numéros de téléphone qui font sonner nos téléphones sans arrêt.
Alors, vous comprenez bien que dans la question « qu'est-ce qui peut paraître intolérable ?», il s'agit de parler de conduite, de comportement, de mode d'être aussi, hein, que la loi n'interdit pas. Si vous me dites « il est intolérable de tuer un enfant », la question ne se pose même pas, c'est interdit par la loi. Là, je parle de choses qui ne sont pas interdites par la loi. Moi, il m'est arrivé parfois d'avoir des débats avec mes élèves. Pour certains, voir un couple d'homosexuels s'embrasser dans la rue ou se tenir par la main, pour eux, ça les agresse, c'est intolérable. Et je me dis, je ne suis pas toujours sûr que la jeunesse actuelle soit toujours. Enfin, je dis ce que toujours aussi tolérante que ce qu'on aurait pu l'espérer. Voilà. Moi, je voulais réagir là-dessus.
Moi, oui. Ce qui me gêne, c'est l'individualisme, le manque d'empathie et l'irrespect.
Le manque de respect.
Le manque de respect.
Je trouve que la jeunesse est moins tolérante que par rapport à
l'espèce. Ah, c'est intéressant, parce que moi, c'est un peu ce que
je trouve. Je trouve que la jeunesse est moins tolérante qu'auparavant.
Est-ce que vous pourriez un peu développer Vous pensez à... Oui Est-ce que vous pourriez un
peu... Oui, justement, ce que vous venez de dire, oui. Les, voilà, par rapport à... je ne sais pas comment dire... par rapport aussi à la violence, ils sont très tolérants, mais pas tolérants. Ils sont très tolérants dans la violence, c'est normal ou autre. Et des choses qui sont beaucoup plus douces, ils ne sont pas tolérants.
Plus douces ?
Oui, plus douces, dans le sens, je ne sais pas moi, quelque chose de gay, quelque chose qu'on va trouver bon, de gentil. Par exemple, un film... on va trouver gay qui a quelque chose de sympathique à l'intérieur, pas de violence. Ils vont dire, non,
c'est ringard.
Oui, voilà, ce ne sera pas du tout tolérant par rapport à toute cette bienveillance autour, ah, entre autres.
Oui. Moi, au Sénégal, parce que j'enseignais aussi au Sénégal, j'enseignais chez les maristes et j'ai été frappée de la tolérance, justement, de cet ordre-là. Nous avions une religieuse qui passait tous les matins dans les classes. Et quand elle arrivait dans ma classe, elle disait, les enfants, vous vous levez, fermez vos yeux, et chacun, dans le secret de son cœur, prie son Dieu. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Ah oui, mais ça, c'est des expériences.
Extraordinaire. Parce que nous avions, des Asiatiques, des musulmans, bien sûr, puisque c'était la majorité musulmans. On avait un peu toutes les nations dans cette école. Et j'ai trouvé que cette tolérance était quelque chose d'extraordinaire.
Lié au respect.
On vit dans la
à la compréhension, la connaissance de l'autre.
Et surtout prônée par une religieuse. C'est le comble de la tolérance.
Alors là, on revient à l'idée que la différence enrichit. Ça, ça me rappelle cette fameuse phrase de Saint-Exupéry, c'est dans Vol de Nid, je crois. Loin de me léser, tu m'enrichis. Vous connaissez cette citation de Saint-Exupéry? Mais est-ce qu'on n'en est pas loin, justement? Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui génère, qui pourrait, je pose la question, hein, générer des comportements d'intolérance, parce que c'est une société qui peut-être nous pousse au repli sur nous-mêmes, au rejet parfois de l'autre.
C'est ça, l'individualisme.
Et donc, ce que le philosophe Gilles Lipovetsky avait appelé quelques années de cela, l'ère du vide. Il appelle notre époque l'ère du vide, c'est-à-dire l'ère du vide des valeurs d'abord, de l'individualisme, du cocooning, du repli. On est intolérant parce qu'on est ramassé sur soi. Ouais. La tolérance, c'est l'ouverture.
Hein.
C'est ça.
Juste quand même une question. Il y a quand même combien d'intolérants, au sens de ceux que tu décris là, à l'intérieur des mots. Finalement, quand on essaie quand même 7 milliards, ça commence à faire beaucoup. On a des pays qui sont très importants. Si l'intolérance, c'était... qu'elle est évoquée là. Si elle était si marquée et importante, on serait actuellement en guerre civile, en train de s'entretuer.
Tu parles en France ou dans le monde?
En France et dans le monde. Donc on n'en est pas là. Je crois que l'immense majorité des citoyens de cette planète vivent cette tolérance par rapport aux diversités, de façon d'être, de croire, etc., etc. Et après, il y a effectivement une minorité d'excité, et parfois jusqu'au crime. Mais c'est ça qui est admirable dans notre époque, c'est que finalement cette minorité ne parvient pas à convaincre les autres de la rejoindre dans son énervement.
Dans sa folie.
Si on prend l'islam, ils sont officiellement à peu près 1 milliard. Si Al-Qaïda ou Daesh avaient réussi à convaincre ne serait-ce que la moitié de ces 1 milliard, nous serions dans une situation extrêmement grave. Or, ils n'ont réussi qu'à convaincre qu'une toute petite poignée. En proportion, bien sûr.
Oui.
Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as besoin que d'un seul individu pour, par exemple, à Nice, conduire un camion et aller écraser les gens. Donc,
oui, mais quand même,
quand même.
C'est... Il n'y a pas besoin.
Quand même, il y a le monde vit quand même dans une grande tension. Mmh. Regardez les États-Unis, la Russie, la Syrie, ça ne date pas d'aujourd'hui, les conflits, le Mali, enfin, il y a énormément de. La Birmanie.
Il y a moins de guerres guerre aujourd'hui qu'autrefois.
Il y a peut-être de futures guerres. La Corée du Nord, le nucléaire, il y a énormément de problèmes sous-jacents. Et on ne sait pas ce que ça va devenir.
Alors, qui voulait encore intervenir? Qui voulait intervenir? Je vous donne la parole juste après. Allez-y.
L'intolérance contemporaine dont vous parliez a peut-être aussi à voir avec le rapport à la frustration, finalement. Parce qu'il me semble que dans une société où vraiment on pousse à consommer rapidement, à satisfaire immédiatement ses désirs, ce besoin d'immédiateté me semble contredire la notion d'endurance qui est propre à la tolérance dont vous parliez par rapport à
l'idée. La capacité à supporter.
Peut-être qu'il y a, il y a peut-être un lien avec cette. Le rapport à la frustration, je sais
c'est
pas.
Intéressant. Alors, ça me permet de faire un léger développement.
Et en psychanalytique, plutôt, quoi, finalement.
Oui. On a dit qu'un des écrivains, d'ailleurs très assez sulfureux, en tout cas, un des écrivains qui a le mieux décrit notre société individualiste, le délitement des valeurs et l'intolérance qui est sous-jacente, c'est Michel Houellebecq, vous avez entendu. L'extension du domaine de la lutte, les particules élémentaires. Qui parle de cette. Qui montre que même les rapports humains sont calqués sur le capitalisme, c'est-à-dire la concurrence pour gagner de l'argent, pour gagner de l'amour. Il parle de capitalisme sexuel aussi, enfin c'est très. Et il montre que la société est intolérante dans le sens où sa logique est celle d'une mise en concurrence forcenée des individus à tous les niveaux de leur existence. Quand on est mis en concurrence à tous les niveaux, affectifs, professionnels, on est intolérant. Et moi, ça me rappelle alors un autre film où on voit, je ne me rappelle plus le titre, c'est joué par José Garcia, qui va tuer tous les concurrents qu'on peut avoir. Vous ne vous rappelez pas du titre? Voilà. Il n'y a pas plus intolérant que ça. Hein. Il va tuer les potentiels pour avoir un poste. C'est-à-dire que ce qui nous rendrait intolérants, si on suit cette analyse, hein, c'est la mise en concurrence généralisée des individus. Et ça commence à l'école aussi. Hein. Moi, on m'a rapporté, et je crois savoir que c'est vrai, que dans certaines prépas, les étudiants vont déchirer les pages de certains livres pour que leurs petits copains n'aillent pas les lire. Parce qu'ils sont tous concurrents en prépa. C'est tolérable, ça.
Mais c'est pas moteur, quand même, de la société. Parce qu'il y a un devoir d'excellence dans certaines communautés qui réussit très bien. Par contre, il y a des gens qui sont les encodants, c'est sûr. Mais disons que c'est un moteur, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais. Oui, quand ça fonctionne bien, on parle d'émulation. Voilà.
Oui, mais il y a un minimum d'éthique quand même à avoir. Alors, le problème de l'éthique, c'est
oui, ah ben, on est complètement d'accord.
La marge de tolérance dépend de la société dans laquelle on vit, finalement.
Et la contrepartie de la tolérance, c'est la faculté d'indignation de Stéphane Hessel. Mais je veux dire, la tolérance seule ne suffirait pas, il y a aussi la faculté d'indignation qui fait qu'à un moment, on essaie de deviner un équilibre entre les deux. L'équilibre est important et on est constamment à devoir réfléchir sur effectivement ce qui est harmonieux ou pas.
Entre la tolérance et l'indignation.
Voilà. Alors oui, il faut pouvoir prendre le temps d'être tolérant aussi. Oui. Des sociétés performantes comme vous décrivez justement, qui sont toujours des sociétés ultra rapides finalement, on n'a pas le temps d'être tolérant. Je pense que c'est quasi un réflexe. Ça n'incite pas à prendre le temps d'être tolérant. Je pense
quoi, parce que ce serait une faiblesse, c'est ça.
Et ça.
Non. Mais disons que la tolérance, oui, c'est une. Enfin, oui, puis surtout, c'est ça suppose de faire l'épreuve de l'autre finalement. Et je pense que l'individu pris dans un flux hyper rapide va occulter automatiquement les autres et se concentrer que sur son intérêt. C'est presque par réflexe, quoi, si vous voulez, je pense.
On est bien dans l'idéologie
de capitalisme.
Je pense que la vitesse incite à ce repli individualiste, juste en fait pour en se disant, de toute façon tout va trop vite, je ne peux pas m'occuper de tout, donc je m'occupe que de moi parce que ça va tellement vite. Que je fais pas attention, je zappe en fait.
Très travail cohérent avec. Et ça, oui, absolument. La tolérance devient une faiblesse, on se met soi-même des bâtons dans les roues en étant tolérant là. Ce qu'on veut, c'est l'efficacité, l'excellence, la performance.
C'est vu à tort comme un détour en fait.
Ouais. Alors je vais vous donner la parole, c'est avant que vous l'avez à vous en venir. Allez-y.
Alors voilà, moi c'est par rapport au texte.
Au texte, hein.
Il y a eu d'abord le premier texte dont vous avez parlé, il y a eu le texte de Cadre, et il y a d'autres textes qui sont, me paraissent tout à fait pertinents. Je pense à l'affaire Dreyfus.
Oui.
Et j'accuse d'Émile Zola. Il est paru dans
L'Europe.
Là aussi, il y a un texte qui est très, qui est d'ailleurs plus fort que celui de. Voltaire, bon, disons que c'est pas le même style, c'est pas la même manière d'appréhender les choses. Et puis un texte que j'aime beaucoup en tant qu'ancien enseignant, c'est le texte de Jules Ferry, La lettre aux instituteurs. C'est un texte remarquable et je crois qu'il définit bien la tolérance.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est deux textes très importants.
Une phrase que je vois, c'est demandez-vous si ce que le maître dit aux élèves, ses parents l'accepteraient.
Oui, oh, oui.
Et voilà.
Ah, c'est un. J'avais étudié il y a un petit moment déjà. Moi, je voudrais revenir alors sur d'abord le j'accuse, le fameux j'accuse de Zola hein, dans l'Aurore, hein, qui se termine par cette phrase. Il dit cette lettre se conclut par cette phrase, l'humanité qui a tant souffert, écrit-il, a droit au bonheur. Enfin. Elle est magnifique cette phrase, et quand on sait qu'elle a été écrite avant les deux guerres mondiales qu'elle suit, hein, on se dit, mais c'est incroyable. Quoi. Enfin, il dit, l'humanité est à bout. Et quand il écrit ça, l'humanité n'a pas encore connu la première et la deuxième guerre mondiale. Enfin, ça laisse rêveur, quoi, autant que toi, enfin, je sais pas. Et la lettre aux instituteurs, elle est magnifique, hein, on a dit que c'est une. Elle faisait des promotions de ce qu'on a appelé les hussards de la République. Hein. C'est une lettre qui définit les missions, mais de manière extrêmement morale. Hein. C'est l'éthique de l'enseignant qui va élever. Et cette élévation est aussi la condition de l'ouverture des esprits. Est-ce qu'on peut être tolérant quand on a l'esprit fermé? Vous voyez, c'est Montesquieu qui écrit les lettres persanes.
Oui.
Les lettres persanes, Reddy et Rica. Donc, ce sont deux persans qui vont visiter Paris. Hein, et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte. Hein, il ne me semble pas que Reddy et Rica, donc c'est deux personnages iraniens, se montrent intolérants vis-à-vis de ce qu'ils voient. Ils découvrent la France. Mais ils ne sont pas intolérants. Ils découvrent les mœurs des Français. Ah, évidemment, c'est pour. C'est un prétexte hein, de Montesquieu pour décrire l'âme française aussi, pour montrer les mœurs d'un point de vue qui est extérieur. Mais à aucun moment, enfin, il me semble, hein, Reddy et Rica se moquent des Français, ils ne se moquent pas. Ils découvrent une culture qui n'est pas la nôtre. Oui.
Le côté bizarre,
le côté. Voilà. Ce qui nous permet de mettre en perspective hein, son propre culture. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est bien. Mais moi, vous comprenez que si j'ai beaucoup insisté sur la dimension religieuse hein, du problème, c'est parce que les textes clés partent de là, quand même. Hein. Partent des querelles religieuses, et je sais si elles ont été terribles. Hein. Il me semble hein, que la notion de tolérance réfléchie d'un point de vue politique et sociologique, tolérance par rapport aux mœurs, ce sont vraiment des problématiques récentes, avec cette idée que la tolérance, c'est d'abord une affaire de choix individuel, d'ouverture d'esprit individuel. Je me rappelle d'un film des années 60 qui s'appelait Devine qui vient dîner ce soir avec l'acteur noir américain Sidney Poitier. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui présente son amoureux là, et l'amoureux en question est noir. Hein. Et ça posait évidemment la question de la tolérance, alors dans un contexte bien différent, quoi. Mais on voit comment la question de la tolérance devient maintenant une question de sociologie, c'est-à-dire de modification des mœurs. Hein. Est-ce qu'en 68, on aurait pu accepter le mariage pour tous? On n'acceptait même pas l'IVG, quoi. Enfin,
est-ce qu'il a été accepté?
Et voilà, et bonne question. Est-ce qu'il a été accepté? Voilà, bon. Après,
quand tu dis Dieu sait, tu fais du prosélytisme.
Le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Oui. Ah, je l'ai pas vu.
Avec les quatre religions, les quatre filles qui se marient avec quatre. Oui,
et donc,
c'est le même thème.
Mais c'est le même thème. Et intéressant, là, il a déjà tes yeux. C'est un couple noir qui adopte un bébé blanc. Et ben, c'est très
astral. Ben, plein de thèmes.
Oui. De votre point de vue, qu'est-ce que l'humanisme laïque doit à la religion et à Voltaire?
C'est une bonne question. L'humanisme, dans tous les cas de figure, hein, l'humanisme définit une doctrine, une philosophie qui cherche à favoriser l'épanouissement de l'homme, de ses facultés, de ses possibilités. Vous connaissez la phrase clé, enfin une des phrases clés qui définit l'humanisme à la Renaissance. Hein. Enfin, il y en a deux, hein, c'est Rabelais. Hein. Une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine, et puis science sans conscience n'est qu'un risque de l'âme. Bon, ce sont deux phrases qui expriment bien cette idée que l'humanisme vise l'épanouissement de l'homme, mais l'homme au centre. Hein. La laïcité, moi, il me semble hein, qu'elle part d'une volonté de faire coexister de manière pacifique les cultes. Avec un but qui est aussi un but pragmatique, qui consiste à ne pas donner la prééminence d'une religion sur une autre. Hein. Donc là, c'est un principe de mise sur pied d'égalité. En fait.
Oui, mais alors on peut avoir l'impression justement qu'elle est contre tout ce qui est religieux aussi.
Ah non.
Alors, c'est souvent l'impression qu'elle donne.
Non, voilà.
Non, c'est
ouais.
Pas ça.
C'est souvent
l'impression qu'elle donne. C'est souvent l'impression qu'elle
donne.
Oui. Je vous demandais comment vous faites la distinction entre laïcité et laïcisme.
Aïe, aïe,
aïe. Dès que ça finit par « isme », c'est que ça va pas.
Ça s'appelle une pirouette.
Tu veux répondre?
Ça s'appelle une pirouette.
Je ne veux pas répondre, mais sur cette question de la laïcité, par rapport à ce que tu viens de dire, quand il y a eu la phase de préparation de la loi de séparation des Églises de l'État en France, d'accord, de la fin du 19e à ce début 20e, ceux qui ont porté clairement, activement, le projet de séparation étaient considérés, définis comme étant des anticléricaux. Donc, c'est-à-dire jusqu'au père Combe, par exemple, celui qui était appelé comme ça, qui est voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'ils étaient vus comme étant anti-catholiques. C'est-à-dire que pour eux, le propos n'était pas de permettre une société où il y aurait une diversité de cultes, mm-hmm. mais en tout cas, de couper le lien entre la France et le Vatican. C'est de faire que la France ne soit plus officiellement catholique. Donc, tu te souviens aussi, tu sais aussi que les catholiques à l'époque l'ont très mal vécu, très mal pris, et que ça même, il y avait eu une espèce de mini-guerre civile, puisqu'il y a eu des affrontements, etc., etc. Et que l'extrême droite catholique qui a visé la République avec Dreyfus, etc., etc., mettait en cause ça en disant on veut faire que la France ne soit plus chrétienne. Or, ceux qui portaient la loi, comme Aristide Briand et d'autres, disaient « mais non, pas du tout ». Maintenant, nous, on a le recul, on a le siècle passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les principaux dirigeants de la France ont été catholiques, jusqu'à l'actuel, qui, il y a 48 heures, a fait une déclaration d'amour peu laïque, à l'Église catholique.
Jean-Luc Mélenchon a parlé de délire métaphysique hein, à propos de.
C'est lâché là. C'est embêtant parce que du coup, on n'arrête pas de nous dire, en tant qu'un représentant d'État, nous dit voilà, il y a la Constitution, il y a l'État de droit, il faut respecter. Et lui qui est le garant de ça, se permet d'avoir un propos, puisque est-ce qu'il dira la même chose à l'égard de l'islam? Le lien est. Donc. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'il s'agissait pour lui d'affirmer clairement que la France reste d'une certaine manière un État catholique, que malgré la loi de 1905, et c'est effectivement la réalité, malheureusement, de notre histoire, donc depuis un siècle, y compris la période la plus embêtante avec Vichy, quand même. Et là, il y avait un lien avec, quand même, l'Église catholique, qui, je rappelle, savait ce qui se passait, quand même, dans les camps, et globalement, alors après, il y a eu des gens, il y a eu des croyants, il y a eu même des gens importants dans la hiérarchie qui ont dit des choses, qui ont intervenu, mais pas au plus haut niveau, et puis Vichy était avant tout dirigé par des hauts fonctionnaires qui étaient principalement catholiques. Donc, c'est quand même très embêtant d'avoir en permanence un État qui dit une chose qu'on peut faire. C'est-à-dire que quand c'est pour eux, ils ont le droit de ça, mais quand c'est pour nous, en plus bas, et puis alors, quand on voit comment les musulmans, dès qu'ils font quelque chose, on les regarde de travers, on leur dit des choses, etc., on vit dans un État, dans un pays qui est profondément intolérant.
Oui, mais avec vous, comment moi, je vais vous citer la sourate 4, qui concerne les femmes. Mesdames, écoutez bien. Si votre mari n'a pas suffisamment d'argent pour s'offrir, pour s'acheter une deuxième épouse, il n'a qu'à prendre son esclave. Et vous pouvez vérifier. Sourate 4.
Bon. Alors, je vais. Alors, il y a d'autres quelqu'un qui veut le faire. Alors, allez, je vous en prie.
Je voudrais juste répondre par rapport à ce qu'il a dit aussi. C'est que vous avez dit aussi, les États-Unis, le président, il pose encore. Il jure sur la Bible. Mais aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Les Sikhs, ils ont leur turban, qu'ils soient dans la police, là. Les enfants, ils vont à l'école avec la kippa ou avec les croix ou avec toutes les marques de. Et pour moi, ça, c'est la tolérance et une vraie démocratie.
Allez.
Voilà. Alors qu'en France, moi, quand j'étais petite, j'allais à l'école avec ma croix. Mon copain de classe, il était juif, il venait avec la kippa. Voilà, et il n'y avait aucun problème, ça se passait très bien. Et tout d'un coup, on a dit, oh là là, ces marques de religion, vous comprenez, on est dans un État laïque. Voilà ce qu'il vient de dire. Hein. Alors, est-ce que ça, c'est pas un peu sous des critères de tolérance, de laïcité, de voilà, on doit respecter l'autre, sous le fait que soi-disant on doit respecter, donc être tolérant, on gomme tout ça, du coup on augmente justement la capacité aux gens à se sentir agressés ou les uns face à face des autres, et finalement c'est exactement soi-disant pour la tolérance, il vaut mieux être tolérant et ne pas engendrer plus de mal, mais là on a l'impression que sous le couvert de la tolérance on engendre plus de mal, alors qu'on se dit tolérant, respectueux des autres. Donc, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on utilise en fait, c'est pour ça que l'argument de la tolérance, attention, ça dépend, moi je trouve qu'il est valable que dans le sens de ce qu'il avait dit aussi Maurice, c'est-à-dire le respect de l'autre qui nous amène à nous dépasser pour comprendre. Et donc là, on est dans une réelle tolérance qui va de l'avant. Mais pas comme on voudrait nous utiliser ou nous jeter de la poudre aux yeux, on est tolérant. Voilà, ah oui, ça marche pas.
Parfois, la tolérance peut être en fait.
Alice. Pour répondre un peu à nos.
Alors, Alice.
Brièvement, moi je pense qu'on parle en France à l'heure actuelle davantage d'islamisme que de catholicisme.
Absolument, c'est vrai.
Ah, il faut savoir que. Bon, je sais parce que j'ai. C'est pour un livre de culture générale, j'avais eu comme travail à retracer les étapes qui ont abouti à la loi 2005, je crois, sur l'interdiction des ports ostensibles. En fait, c'est une religion. Ça part en fait d'un. Je pense que vous le savez peut-être. Hein, le problème a commencé dans un collège de Creil. C'était deux jeunes filles, à l'époque c'était le foulard. C'est parti de là en fait. Hein. Après, il y a eu d'autres événements qui ont suivi. Hein. Mais je crois que c'est. D'ailleurs, tous les observateurs l'ont dit, la loi qui interdisait les ports de signes ostensibles, elle était dirigée par rapport au problème qui avait qui concernait des musulmans. Enfin, voilà. Je me souviens, c'était à l'époque, on en parlait beaucoup dans les médias. Hein. Ensuite, il y a eu comme ça plusieurs étapes. La dernière, moi, qui m'a marqué, c'est celle où, puisque l'image avait fait le tour du monde, hein, c'est cette jeune femme, je crois que c'était sur une plage à Cannes, qui avait été verbalisée parce qu'elle était sur une plage, elle avait gardé son espèce de burkane, je crois. Et l'image avait fait le tour du monde. Hein. La France avait été présentée comme le pays de l'intolérance, qui tolérait que des jeunes filles se promènent pratiquement toutes nues, presque en monokini, mais qui verbalisait quelqu'un qui était habillé. Vous vous rappelez de ce que c'est ? La question est, je dirais, d'une actualité encore très brûlante, hein, finalement. Mais que la France soit présentée comme, à ce moment-là, hein, comme le pays de l'intolérance, en fait, ça avait fait. Enfin, ça a fait grand bruit. Hein.
On interdit, par exemple, les ostentatoires religieux à l'école parce que c'est public, dans les lieux publics. Mais vous allez à l'aéroport, on l'interdit aussi ? Ah quoi, bien sûr que si, c'est un lieu public. Et d'ailleurs, tu n'as pas le droit de fumer dans un aéroport. C'est un lieu public. Alors, si on va par là, c'est aussi public la place là en face, c'est public le café. C'est... Alors, où est la loi là ? Il y a quelque chose qui va pas.
Ah oui. Alors, on a...
Et l'application de la loi.
Et l'application de la loi. Alors, oui.
Excusez-moi, je pense que ce qui est important pour être tolérant, c'est de vivre quand on a l'occasion, quand on peut, à l'étranger. Parce que là, entre vivre dans un pays à l'étranger ou y aller en tant que touriste, ce n'est pas la même chose.
Oui.
Et on apprend à s'intégrer, à découvrir justement les traditions, la culture, la religion, et ça aide beaucoup justement à s'ouvrir l'esprit et à mieux comprendre aussi ceux qui viennent chez nous, et nous à mieux accepter les autres aussi.
Et ce qu'il y a, c'est que la société étrangère a autant évolué que nous. Avec la montée de l'intégrisme, comme je vous disais tout à l'heure, la femme musulmane est quand même tenue à certaines règles très strictes. Et il faut savoir que vous allez en Arabie Saoudite, une femme, malgré ce qu'on dit, une femme n'a pas le droit de conduire, elle ne peut pas sortir.
Ça vient de changer, oui.
Et pour qu'elle soit accompagnée de la rue par son mari, par son père, etc.
En Arabie Saoudite, on n'a pas ces femmes, elles n'ont pas le droit de faire ce qui est visible dans les lieux publics. Mais dans les lieux privés, je vous garantis qu'elles font tout ce qu'elles veulent.
Oh ben, écoutez, heureusement qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent.
Ah oui, heureusement.
Oui, non, mais c'est même de l'alcool, voilà. Faut savoir que aussi, ça, c'est des choses. Il y a le cachet, le légal, et pour qui ?
Essentiellement vécu dans les pays maghrébins et d'Afrique noire. Avec un mari qui était dans les anciennes troupes coloniales, vous savez, ils vont se payer l'Afrique.
Non, il
n'y
a pas que l'Afrique.
Alors,
J'ai fait deux annonces. Lui, il parle des nano-organismes, de la médecine, des recherches avancées de la médecine.
Alors, moi, je voudrais vous dire pour terminer que je pense que, sur ce point-là, on a un consensus, enfin, me semble-t-il, que la question de la tolérance, elle prend tout son relief, toute sa dimension problématique dans la démocratie. Encore une fois, parler de la tolérance dans un régime totalitaire, ça n'a pas de sens. Dans les régimes totalitaires, on a le principe tolérance zéro. Mais tolérance zéro, c'est-à-dire pas de liberté aussi. Hein. C'est la fragilité, c'est tout ce qui fait aussi le sel et l'enjeu d'une vie démocratique réelle, en fait. Hein. À chaque fois, d'être vigilant sur ce qu'on appelle la tolérance, sur ce qu'on admet au principe de la tolérance. La vigilance démocratique, c'est justement avoir à toujours reposer la question de ce qu'on est capable de tolérer ou pas dans une démocratie. Et c'est ça qui fait vivre aussi la démocratie. C'est cette interrogation continuelle sur ce qui est tolérable dans une démocratie de ce qui est intolérable. Bon, c'est pas de moi, hein, mais je...
Les dangers, ce sont les extrêmes.
Ce sont toujours les extrêmes qui sont, par essence,
c'est ça, le danger.
Intolérables. Intolérants, je veux dire, parce qu'ils sont radicaux. Oui.
Il y a un truc qui est assez intéressant. Si on considère que la tolérance, c'est laisser à chacun le fait de suivre sa pente, il faudrait mieux qu'elle soit en montant.
Ah, ça c'est beau. Merci. Alors, je voudrais juste, pour terminer, faire deux annonces. Donc, vous savez que j'anime aussi une fois par mois. Je crois que c'est une fois par mois, oui. Un café philo. Donc, celui que je fais le prochain, c'est demain. Je l'avais décalé à cause des rencontres organisées par l'association Tapage sur l'Anthropocène, donc il y a lieu demain à 20h. Donc j'ai mis au programme une question extrêmement curieuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette question au programme, d'ailleurs, parce que j'ai rien à dire dessus. La question, c'est: devons-nous accorder de l'importance à l'écume des jours? Alors j'ai relu rapidement les livres. A pas aidé tellement. Non. Il y a plein de choses à dire, mais je ne vous dirai pas quoi. Voilà, c'est à partir de 20h. Et sinon, donc la prochaine fois, vous savez qu'on va se voir encore deux fois au mois de mai, parce qu'en juin, il y a les examens. Donc on va se voir plus fréquemment, et je m'en réjouis d'ailleurs. Et le prochain thème, ce sera donc rien de nouveau sous le soleil. Je pense que vous allez apprécier, je vous dis tout de suite. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine.